VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. 18h30 TU, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 27 juillet 2017. John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, Côte d'Ivoire, 5 militaires ont été radiés de l'armée à la suite de l'attaque de l'école de police d'Abidjan. En RDC, journalistes en danger contestent une mesure limitant le travail des journalistes étrangers dans le pays. Le président français annonce la prochaine mise en place de centres d'examen pour les candidats à l'asile en Libye. La Russie répondra à l'insolence des États-Unis, a promis le président Vladimir Poutine. Et puis nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Dilly Dico pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. 5 gendarmes ont été radiés de l'armée ivoirienne après l'attaque perpétrée la semaine dernière contre l'école de police d'Abidjan. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Le général Sékou Touré, chef d'état-major général des armées, a annoncé que les enquêtes ont permis pour l'heure d'identifier 5 personnes qui ont pris part à l'attaque. Les maréchaux des logis Bouassou Wassa Toussaint, Pekoula Mathias, Seri Brice Arnaud Joël, Mel Akrekou Nasseré Sylvestre et le brigadier-chef Seri Doua Alain ont été radiés. Le général Touré a précisé que ces gendarmes vont être mis à la disposition de la justice. Il a ajouté qu'il est déterminé à extirper des rangs de l'armée tous ceux qui n'honorent pas l'institution surnommée la Grande Muette. Des coups de feu ont été tirés à Abidjan par des membres des forces de sécurité à 2 jours de l'ouverture des Jeux de la Francophonie. Les assaillants sont repartis avec des armes et des munitions qui ont toutes été récupérées selon la police. À la mi-juillet, 3 soldats ont été radiés au lendemain de troubles dans 2 camps militaires à Abidjan et Korogo où 3 militaires ont été tués.
En RDC, un arrêté ministériel limitant le travail des journalistes étrangers dans le pays a suscité jeudi l'indignation d'une organisation congolaise de défense de la liberté de la presse. Journaliste en danger exprime sa désapprobation totale à la suite des récentes mesures prises par le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende, visant à censurer les journalistes étrangers et à restreindre leur liberté de mouvement en RDC. Il est strictement interdit aux correspondants de la presse étrangère de réaliser des reportages dans les lieux stratégiques, sauf sur autorisation expresse des responsables des 10 lieux, selon cette décision du ministre des Médias datée du 12 juillet. La première La dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, a révélé à Harare devant la Ligue des femmes de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, qu'elle encourageait son mari Robert Mugabe, âgé de 93 ans, à désigner un dauphin pour lui succéder lorsqu'il quittera le pouvoir. La succession de Mugabe ne pourra pas se faire sans son engagement. Il a son mot à dire en tant que citoyen du pays, a estimé l'épouse du président, elle-même âgée de 52 ans. La ZANU-PF est très divisée sur l'identité du successeur de Robert Mugabe, qui lui n'a jamais pris de position officiellement sur le sujet, estimant même qu'il pourra gouverner jusqu'à 100 ans. La France compte créer en Libye des centres d'examen pour les candidats à l'asile. Ils devraient ouvrir très bientôt, selon le président Emmanuel Macron. Morgane Guiriet.
L'objectif de ces centres, c'est d'éviter aux demandeurs d'asile de prendre le risque de traverser la Méditerranée sans être sûr d'être éligible. Les hotspots permettront donc un traitement préalable des demandes. Les gens, on va aller les chercher, assure le président français. Je vais envoyer des missions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les hotspots italiens et je suis prêt à en envoyer en Libye, a-t-il précisé, évoquant aussi la possibilité de créer de tels centres au Niger. Il faut cependant que les conditions de sécurité soient réunies. Aujourd'hui, elles ne le sont pas, a nuancé l'Élysée. Emmanuel Macron a toutefois insisté sur la différence entre réfugiés et migrants économiques. Selon lui, il n'existe pas le pays qui peut accueillir tous les migrants économiques.
Le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni a annoncé ce jeudi la présentation mardi au Parlement d'un plan pour déployer des navires dans les eaux libyennes afin de lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Mercredi, M. Gentiloni a déclaré que son homologue de Tripoli, Fayez al-Sarraj, lui avait demandé l'aide de navires italiens dans les eaux libyennes pour lutter contre les trafiquants d'êtres humains. La France a par ailleurs affirmé qu'elle n'a pas l'intention de prendre un hypothétique leadership en Libye, a affirmé jeudi à Rome le secrétaire d'État aux affaires européennes, Nathalie Loiseau, après la réunion de mardi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités marocaines ont annoncé l'arrestation d'un ressortissant britannique recherché par Interpol pour escroquerie informatique et fraude boursière. L'homme de 49 ans a été arrêté par la police de Tanger et était recherché sur la base d'une notice rouge émise par Interpol. Selon une source proche de l'affaire, il s'agit de Renwick Addo, l'homme d'affaires britannique vivant à New York. Le mois dernier, les autorités américaines avaient inculpé M. Addo pour avoir détourné environ 5 millions de dollars qu'il avait ensuite transférés vers des comptes au Maroc et à l'île Maurice. Le Parlement tunisien a voté mercredi soir une loi très attendue pour lutter contre les violences faites aux femmes qui renforce la protection des victimes et abolit des dispositions jugées rétrogrades. La loi prévoit une assistance juridique et psychologique aux victimes et instaure des programmes spécifiques pour ancrer les principes des droits humains et de l'égalité entre les genres dans l'enseignement. Elle modifie également l'article 227 bis, très controversé du Code pénal, supprimant la disposition qui prévoit l'abandon des poursuites contre l'auteur d'un acte sexuel sans violence avec une mineure de moins de 15 ans s'il se marie avec sa victime. L'Égypte s'est dotée mercredi d'un Conseil national pour la lutte contre le terrorisme alors que le pays est le théâtre d'attentats djihadistes visant les forces de sécurité et la minorité chrétienne. Affrontement entre Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées alors que des milliers de musulmans pénétraient sur ce site à Jérusalem-Est au terme de 2 semaines de boycott. Salwa Jafari.
Une foule en liesse s'est massée à l'entrée de l'esplanade des mosquées après l'annonce de la nouvelle. Les Palestiniens vont enfin pouvoir prier à Al-Aqsa.
Les Israéliens nous ont privés de notre droit à la prière, mais maintenant, grâce à Dieu aux autorités religieuses, nous allons pouvoir faire la prière après Al-Aqsa.
Ces scènes de joie n'ont pas duré longtemps. Des affrontements avec les forces israéliennes ont rapidement éclaté. Le Croissant Rouge palestinien faisait état de 46 personnes blessées sur l'esplanade des mosquées et aux alentours du site. Les raisons de ces heurts n'étaient pas claires dans l'immédiat. Les autorités musulmanes avaient levé leur boycott du troisième lieu saint de l'islam après l'annonce par Israël du retrait de toutes les nouvelles mesures de sécurité qu'ils avaient mises en place aux entrées du site. Depuis le début de la crise, les fidèles musulmans priaient en dehors de l'esplanade où se situe la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Les tensions qui avaient suivi l'installation des détecteurs de métaux avaient rapidement dégénéré en affrontements violents à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée, faisant 5 morts.
Le roi Abdallah II de Jordanie a appelé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à faire juger un garde de l'ambassade d'Israël à Amman qui a ouvert le feu et tué 2 Jordaniens dimanche. Le souverain hachémite a critiqué la manière dont le garde avait été chaleureusement accueilli comme un héros par M. Netanyahou qu'il avait embrassé à son retour d'Amman. L'Iran a affirmé avoir testé avec succès un lanceur de satellites depuis son premier centre de lancement. L'engin appelé Simorgh peut placer des satellites de 250 kg à une altitude de 500 km selon la télévision d'État. Le président russe Vladimir Poutine a promis aujourd'hui lors d'une conférence de presse en Finlande que la Russie répondra à l'insolence des États-Unis selon ses termes. Anastasie Tudiech.
C'est un vote de la Chambre des représentants pour de nouvelles sanctions contre l'Iran, la Corée du Nord et Moscou qui a déclenché la colère du président russe. Nous nous comportons de manière très réservée, très patiente, mais à un moment donné, nous devrons répondre parce que c'est impossible de tolérer indéfiniment l'insolence à l'égard de notre pays, a déclaré M. Poutine. Il a toutefois précisé que cette réplique restait à déterminer et dépendra de la version finale du projet qui doit encore être approuvée par le Sénat et promulguée par Donald Trump. Des enquêtes sont en cours aux États-Unis sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection américaine. Vladimir Poutine y voit tout simplement une montée de l'hystérie anti-russe.
Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est devenu l'homme le plus riche du monde devant Bill Gates à la faveur de la hausse en bourse du titre du géant d'Internet. C'est selon le site Forbes. La fortune du PDG du groupe est désormais estimée à 90,5 milliards de dollars devant le fondateur de Microsoft, Bill Gates, dont les actifs sont estimés à 90 milliards de dollars. L'essentiel de sa fortune provient de sa participation au capital d'Amazon. Depuis le 20 mars, l'action d'Amazon a progressé de plus de 24%. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dili Dico.
Au Gabon, la récapitalisation des trois banques publiques en difficulté pourrait coûter entre 100 et 150 milliards de francs CFA. Au vu des coûts que va engendrer ce sauvetage, la restructuration des banques annoncée depuis décembre 2016 tarde à démarrer. Pour l'instant, les trois banques sont sous administration provisoire et les autorités s'efforcent de trouver des moyens de financement. Pour éviter la fermeture de ces banques, le gouvernement gabonais souhaite porter son attention sur l'ensemble du système financier en raison de sa dégradation. En RDC, le ministre des Affaires foncières, Lumeya Malegui, annonce que la gestion du foncier devrait être améliorée de façon significative grâce à la mise en place de la carte de propriétaire sécurisée. Le ministère garantira la crédibilité des informations contenues dans la carte. À partir de la signature de son détenteur, cette carte aura valeur juridique et le certificat d'enregistrement sera émis en double. Cette formule permettra à l'État congolais de rassembler les renseignements sur un propriétaire grâce à un support unique et sécurisé. Au Nigeria, la Banque centrale a décidé de maintenir son taux d'intérêt à 14% en raison d'une inflation supérieure à 16% et de la faiblesse de la monnaie nationale, le Naira. Le Nigeria ne sera donc pas en mesure de suivre l'exemple du Ghana et de l'Afrique du Sud qui ont récemment réduit leurs taux d'intérêt respectifs.
Nicolas Pineau est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Et bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par les Jeux de la Francophonie et le doublé ivoirien sur 200 mètres.
En effet, les sprinteurs ivoiriens décrochent l'or et l'argent au stade Oufouet-Boigny. Wilfried Kofi Oua termine premier sur 200 mètres en 20 secondes 73 centièmes devant son compatriote Arthur Sisségué en 20 secondes 93. Chez les femmes, c'est la Congolaise Natasha Ngoi Akamabi qui s'impose sur la même distance, le temps 23 secondes 69 centièmes. Médaille d'argent pour le Sénégalais Mamadou Gueye en saut en longueur avec un bond à 7,85 m, 5 cm derrière le vainqueur du jour, le Français Rayo Mayo. Doublé marocain sur 5000 mètres avec la victoire de Younes Essali. Et puis en basket féminin, les matchs de classement ce jeudi avant les demi-finales de demain où le Sénégal affrontera la France. À suivre ce jeudi, Roumanie-Côte d'Ivoire, Mali-Guinée, Cameroun-Liban, Luxembourg-Niger et Bénin-Île-Maurice. À noter en football, les demi-finales c'est demain. Le Maroc sera opposé à la République démocratique du Congo tandis que la Côte d'Ivoire affrontera le Mali. En judo, défaite en demi-finale de la Camerounaise Audrey Njepang Njapa chez les moins de 78 kilos. Chez les hommes, élimination en demi-finale du Camerounais Eric Ongfa-Fouda chez les moins de 90 kilos. Et défaite également en demi chez les moins de 100 kilos du Malien Ousmane Diallo.
Transfert, un Malien signe au Havre.
Milieu de formation, le défenseur de Bastia Abdoulaye Keïta s'est engagé pour 3 ans avec le Havre, 8e de Ligue 2 la saison dernière. Arrivé en Corse en 2012, l'international malien de 23 ans a disputé 21 matchs de Ligue 1 en 2016-2017, dont 14 en tant que titulaire.
Le président de la Fédération espagnole de football démissionne de la FIFA et de l'UEFA, Nicolas.
Angel Maria Villar a démissionné avec effet immédiat de son poste de vice-président de la FIFA et de vice-président de l'UEFA. C'est la conséquence évidemment de sa suspension pour un an par le Conseil supérieur des sports espagnol. Villar, vous le savez, a été arrêté le 18 juillet et placé en détention. Il est soupçonné d'avoir créé et bénéficié d'un réseau de corruption dans le foot espagnol.
Et on termine par Los Angeles qui penche vers les JO de 2028.
Oui, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, estime stupide de ne pas accepter les Jeux Olympiques d'été 2028 au vu des conditions financières offertes par le Comité international olympique, ce qui garantirait à Paris les Jeux Olympiques 2024. C'est la première fois qu'un responsable de la candidature de Los Angeles reconnaît aussi clairement être prêt à concéder les JO 2024 à Paris et recevoir en échange les JO 2028 avec une contribution financière accrue du CIO.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Cap à présent au dossier du jour et on commence par le Sénégal où la population est appelée aux urnes dimanche prochain pour les élections législatives. 47 listes électorales sont proposées aux électeurs qui ont assisté à une campagne pleine de rebondissements avec le retour sur la scène politique de l'ancien président Abdoulaye Wade et le maire de Dakar, Khalifa Sall, toujours en prison. Pour analyse, Eki Abadou a joint à Dakar Alassane Samba Diop, directeur de la radio RFM.
La campagne électorale a déjà préfiguré comment va se passer la législative de 2017, là, le dimanche prochain, parce que cette campagne a été jalonnée. On a constaté qu'il y a eu de la violence d'abord verbale, là, sans les suivi de violences physiques. Les gens ont des appréhensions le jour J, dimanche prochain.
Justement, par rapport à ces appréhensions, le fait qu'il n'y ait plus forcément besoin d'une carte d'électeur et qu'on puisse voter avec différentes pièces d'identité, comme le permis de conduire ou la carte d'identité, est-ce que selon vous, c'est une source de conflit ou de contestation, ou c'est plutôt un signe d'une démocratie allégée et des urnes allégées?
Donc chaque Sénégalais a le droit d'aller voter. Du moment que l'administration sénégalaise a montré ses limites dans la fabrication de cartes d'électeurs et a failli sur ce point bien précis, je pense que la vision qui a été prise par le Conseil constitutionnel, si vraiment les acteurs veulent aller voter et qu'eux-mêmes ils sont conscients qu'aujourd'hui que la violence ne mène à rien, qu'il faudrait aller peut-être se peser aux urnes, normalement, la pension devait baisser pour permettre à chaque Sénégalais d'aller exprimer son droit de vote. Je pense que le peuple sénégalais est deux fois plus mature que ceux-là qui sont dans les partis politiques. Le décompte se fera devant tout le monde. La presse est présente, les journalistes sont présents, ils donnent les résultats en direct sur les radios. Parler de fraude au Sénégal, pour moi, c'est devenu aujourd'hui, c'est des bobards, sur moi des termes.
47 listes, est-ce beaucoup selon vous ou est-ce plutôt un signe de démocratie?
Mais c'est deux choses. Je pense qu'on peut le voir des deux côtés. On peut penser que c'est un signe de démocratie, qu'il y ait 47 listes qui puissent aller en compétition pour une législative. On est passé, tenez-vous bien, en 2012 de 24 listes à 47 listes. Si on regarde bien pendant la campagne, le discours tenu par certains candidats à la télévision, certains d'entre eux, des candidats de communauté, ne savaient même pas c'est quoi le rôle d'un député. Beaucoup se sont rués vers la députation, plus pour chercher un parapluie, comment gagner de l'argent, comment gagner leur vie, que sur ce plan-là, ce n'est pas une finalité démocratique. J'estime qu'aujourd'hui, qu'au Sénégal, qu'on doit beaucoup revoir le nombre des partis politiques au Sénégal. C'est un pays où vous avez 14 millions d'habitants, vous avez plus de 258 partis politiques. Cette élection aujourd'hui coûte pratiquement plus de 10 milliards de francs CFA au Sénégal. Vous imaginez 10 milliards de francs CFA pour un pays pauvre comme le Sénégal? Je pense que c'est une grosse farce. Il faudrait qu'on revienne à des fondamentaux.
Alassane Samba Diop, directeur de la radio RFM à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le Togo cherche à devenir membre du Commonwealth. En avril 2018, en Grande-Bretagne, les chefs du gouvernement de cette organisation vont examiner sa demande d'adhésion. Affichant son optimisme sur l'aboutissement du processus, Lomé espère élargir le champ de ses rapports étatiques et diversifier ses relations de coopération. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint dans la capitale togolaise le président de l'association Veille économique, Thomas Koumou.
Les gouvernements togolais sont à la recherche de certaines opportunités. Nous sommes surendettés. Nous sommes à plus de 2 262 milliards de dettes, 81% du PIB. Donc, il se trouve que les gouvernants sont à la recherche de ressources financières qui vont leur permettre de continuer à, je dirais, donner plus de structure à notre économie, puisque l'accès au Commonwealth ouvre un grand marché commercial et a bénéficié d'un certain nombre d'accords ou multilatéraux qui permettront peut-être de trouver une autre alternative à l'APE ou à la GOA.
Y a-t-il encore du travail à faire avant d'appartenir au Commonwealth, selon vous?
Ce qui serait, je dirais, avantageux pour nous, c'est d'abord cette réforme structurelle de l'intérieur qui permettrait, par exemple, un élargissement de l'assiette fiscale par la création d'un secteur nouveau d'activité, et par la restructuration du secteur primaire, notamment le secteur agricole, avec comme option la transformation des produits orientés vers l'extérieur, avant de pouvoir prétendre accéder à ce genre de marché comme le Commonwealth et de bénéficier des avantages qui sont sur ce marché. Alors, il faut également souligner que tout ceci se fait sur la base du fait qu'aujourd'hui, le Togo est en train de copier le modèle rwandais. Et vous savez que le Rwanda a quitté la francophonie pour se repositionner sur le marché du Commonwealth. Et nous avons beaucoup d'experts rwandais qui sont aujourd'hui au niveau de la présidence de la République togolaise. Donc, ils sont certainement en train de piller le modèle rwandais. Nous sommes sceptiques là-dessus parce que le Rwanda et le Togo sont deux pays totalement différents. Du point de vue culturel, du point de vue historique et du point de vue structurel, en termes de ressources humaines, en termes de ressources minières, c'est deux pays complètement différents. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'obstine à vouloir copier le modèle rwandais.
Pour adhérer à cette organisation, l'une des conditions, c'est l'engagement en faveur de la démocratie, la primauté du droit de l'indépendance, de la justice et la protection des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que le Togo remplit ce critère?
Les Américains estiment que nous n'avons pas fait suffisamment d'efforts en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Donc, c'est pareil pour la démocratie et le respect des droits de l'homme ainsi que la transformation de la justice. Nous estimons, nous, qui vivons dans le pays, qu'il reste beaucoup d'efforts à faire.
Thomas Koumou, président de l'association Veille économique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'un des pays d'Afrique francophone les plus touchés par le sida, le Cameroun continue d'intensifier sa lutte contre l'épidémie. Le pays n'a toutefois pas connu les mêmes bons résultats notés ailleurs sur le continent, comme révélé récemment par l'ONU Sida à marge du sommet sur le VIH-Sida à Paris. Notre correspondant Moki Edwin Kindzeka s'est rendu à Guider dans le nord du Cameroun, où la transmission du virus de la mère à l'enfant reste encore difficile à combattre. Son reportage est relaté ici par Jacques Aristide.
Des centaines de villageois rassemblés dans le quartier de Yelwa prêtent une oreille attentive. Ils sont venus écouter des personnes vivant avec le VIH. Parmi elles, Myriam Anang. Elle a perdu son mari et son bébé de 3 mois il y a 2 ans.
Ceux qui sont dans la zone rurale, quand tu essaies même de les convaincre, plutôt la personne se dit que c'est tel frère qui est en train de m'empoisonner. Il y a 3 parents qui sont décédés, que moi je sais qu'ils sont séropositifs. Mais plutôt la famille dit que c'est le cousin, c'est ceci. Et quand tu essaies de parler aux femmes, bon, elles ne t'écoutent pas. Et quand elle est malade, on prend les médicaments de la rue, on lui donne et tout, c'est comme ça.
Myriam n'avait pas reçu les soins nécessaires. Elle a accouché à la maison avec l'aide d'une accoucheuse traditionnelle. Plus tard, elle est tombée malade et s'est rendue à l'hôpital. Et c'est là qu'elle a eu le choc de sa vie en découvrant qu'elle avait le VIH. Mais elle n'a jamais perdu goût à la vie. Elle est aujourd'hui très active et apporte son soutien à une initiative du gouvernement camerounais touchant les femmes enceintes. D'après les autorités, en 2016, 7 femmes sur 10 dans la partie nord du pays ne se sont jamais rendus à l'hôpital durant leur grossesse. Les éducatrices comme Myriam vont à la rencontre des femmes enceintes dans leur village et les encouragent à recevoir des soins médicaux, s'assurant même qu'elles ne ratent pas leur rendez-vous à l'hôpital. Si le résultat d'un test de dépistage chez la mère peut être connu en un jour, ce n'est néanmoins pas le cas pour le nouveau-né dont les prélèvements sanguins ne peuvent être examinés que dans la capitale Yaoundé, Wekang Georgette, du département SIDA du ministère camerounais de la Santé.
Les échantillons partaient de l'extrême nord pour Yaoundé. Pour que les résultats reviennent, ça mettait 6 mois, 7 mois. Et parfois, ça revient quand l'enfant est même déjà décédé.
L'UNICEF estime que dans le nord du Cameroun, 40% des enfants séropositifs ne reçoivent pas de soins. Mais à l'hôpital de Garoua, on est fréquemment confronté à une pénurie d'antirétroviraux. Mireille Yaki, médecin en charge de cet hôpital.
Bon, on met un enfant sous un protocole et plus tard on est en rupture par rapport à ce protocole. Par exemple, aujourd'hui nous avons eu un enfant, le parent est parti en N'Djamena. L'enfant 2 mois n'a pas pris le médicament.
Bien que les ARV soient offerts gratuitement aux malades, ils doivent toutefois s'acquitter des frais de laboratoire.
Dans Washington Forum cette semaine, la CDAO et son objectif de 3 enfants maximum par femme d'ici 2030. Les parlementaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie et du Tchad veulent faire baisser de moitié le taux de fécondité le plus élevé au monde. Pourquoi un tel projet? Quels enjeux économiques et sociaux? À l'horizon 2050, un continent en majorité composé de jeunes, quel avenir pour eux? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
150 scientifiques africains sont réunis près d'Abidjan depuis lundi pour créer la SAP, la Société africaine de primatologie, avec l'objectif de sauver les primates menacés d'extinction sur le continent. L'Ivoirien Inza Kone, directeur de la recherche et du développement du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, a été élu président de cette organisation. Claire Morin-Gibourg l'a joint pour lui demander quelles vont être ses priorités.
Notre stratégie va se construire autour du renforcement des capacités parce qu'il s'agit avant tout de susciter l'émergence d'une masse primatologue africain qui soit compétitif, aguerri et qui soit porté la voix de l'Afrique dans les initiatives de conservation et dans les projets de recherche. Et cela, c'est à tous les niveaux. Que ce soit des primatologues africains seniors, ils ne sont pas compétitifs par rapport à leurs homologues américains, européens et autres pour accéder à des fonds importants. Au niveau des juniors, qui constituent la grande majorité, donc les juniors, c'est soit les étudiants ou les chercheurs ou conservationnistes en début de carrière, et constituent aujourd'hui la grande majorité des primatologues africains. Donc, il faut pouvoir faciliter l'accès à l'information, l'accès à la documentation, l'accès à des réseaux et qu'ils bénéficient de cette synergie d'action avec nos partenaires américains, européens et asiatiques.
Quels sont les pays où vous avez le plus de travail, où vous allez recruter le plus de personnes pour lutter contre l'extinction des primates?
Déjà, toutes les grandes régions d'Afrique sont concernées. Les problèmes sont divers dans chacune des régions d'Afrique. C'est 85% des espèces de primates qui sont menacées d'extinction. Par contre, à Madagascar, oui, il y a une initiative pour fédérer déjà les primatologues malgaches, les amener à accroître leurs capacités et tout. Mais il faut renforcer ça, il faut continuer d'attirer l'attention des bailleurs de fonds. Dans d'autres régions d'Afrique, on a beaucoup plus de problèmes. Par exemple, en Afrique du Nord, où les primates sont un peu stigmatisés. On accorde très peu d'importance aux primates là-bas. Et donc, il faut susciter, on va dire, un changement de mentalité à ce niveau-là pour que les gens apprennent à réconcilier les primates autrement. Dans les autres régions d'Afrique, on a de plus en plus de primatologues. Là, le problème se pose autrement. C'est, on va dire, la primatologie est plutôt vue comme snobisme, comme un luxe. Il y a une sorte de stigmatisation qui dit que c'est une science qui est réservée aux Européens, aux Américains ou aux Blancs, en quelque sorte. Mais évidemment, ce n'est pas du tout fondé, puisqu'on sait qu'on a certaines tribus africaines qui ont des relations très, très poussées, on va dire des relations sacrées même, avec des espèces de primates. À nous de démontrer qu'en plus de ces valeurs culturelles, les primates ont des valeurs économiques, écologiques, scientifiques, etc. Et que l'enjeu de leur conservation, c'est au final garantir la durabilité des développements qui devraient s'appuyer naturellement sur ce qu'on appelle le capital naturel, c'est-à-dire les écosystèmes forestiers pour la régénération.
Inza Kone, enseignant-chercheur à l'Université au Fouet-Boigny d'Abidjan. C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Michel Joseph. Idriss Fall en assurait l'édition. Patrick Théa était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.